Dans la culture kanak, la parole a une place sacrée. C'est celle qui fait le lien. C'est qui dit d'où l'on vient, quoi. Elle fait partie de ma culture. On témoigne contre l'oubli à travers la poésie.
Épisode numéro 7. L'art de la parole.
J'utilise beaucoup le conte. Ça aide les jeunes à s'interroger eux-mêmes et ça permet de parler de la sexualité ou parler de même la religion. Ou c'est à travers le conte.
Voyage en terre d'outre-mer. Ces oubliés de la République. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Kanak de Nouvelle-Calédonie, Amérindien de Guyane, Mahorais de Mayotte, insulaires de Polynésie, ces citoyens français ne sont pas toujours reconnus comme ils devraient l'être. Pourtant, ils témoignent d'une richesse unique et inventent un laboratoire d'idées pour demain. C'est la voix des peuples autochtones. La France ne l'a pas entendue pendant des siècles. Alors, peut-être est-il temps de l'écouter. Aujourd'hui, direction Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, la parole est au centre de la société kanak. Elle préside à tous les grands événements, mariages, distribution des terres, construction de cases ou règlement des conflits. Les échanges peuvent durer des heures et témoignent d'un art de l'écoute et du partage. À Mayotte, dans ce plus jeune département français de l'océan Indien, l'éducation passe aussi par l'oralité. La parole est divine, spirituelle ou morale, et les contes transmettent certaines valeurs. Ils sont l'âme de cette société traditionnelle qui se cherche et se réinvente. Deux peuples, deux continents, et un même voyage au cœur de l'oralité.
Je suis quelque part finalement un artisan qui tisse les mots des femmes. Et un peu partout dans l'île, voilà, c'est ça. La parole des anciens qui n'est pas arrêtée. Qui portent des valeurs universelles et qui sont éternelles et qu'il faut à chaque fois actualiser selon un art, l'art que nous portons, l'art de la parole.
Chez les Maorés de Mayotte.
Alain Martial Kamal est né dans le sud de l'île, à Mzoiseya, un village au bord du lagon avec en toile de fond ses ravines escarpées et cette forêt tropicale impénétrable. Il est dramaturge. Son théâtre est une oraliture, un retour de l'oralité, mais par l'écriture. Son inspiration, les traditions orales et une enfance bercée par les contes et les légendes. Aujourd'hui encore, il parcourt l'île à la recherche de ses paroles qui racontent l'histoire de Mayotte, de ses sultans, de ses combats pour la liberté, de ses vertus et du savoir. Chaque lieu porte en lui une parole.
Le vent, les feuilles de cocotier, les maquis, la mer à côté. Et puis vous voyez, c'est un lieu qui est respecté. Le village s'arrête là. On va peut-être prendre par là. On est à Istanbul.
Et alors c'est la maman qu'on entend derrière qui commence déjà à raconter des histoires. Voilà.
Turki, vous comprenez ce que ça veut dire? Le Turc, c'est leur ancêtre. Wow. Il cherche son père. Vous voyez ici comment sont les cimetières.
On voit simplement des bouts de pierre, végétation. Votre maman, elle se repère aux arbres. Hein. Elle s'arrête devant chaque tombe supposée et elle fait une prière.
La mère est de ce village-ci. Elle est vraiment attachée à sa terre ici. Ouais. Je viens souvent et c'est toujours pour moi un moment fort parce que je replonge à chaque fois dans le bain de ma naissance, à la fois ma naissance en tant qu'être humain, mais aussi de ma naissance intellectuelle. C'est un autre cordon ombilical, le lieu de mémoire, de repère aussi, et qui nous dit que ce que nous faisons a un sens, puisqu'en réalité, si on écrit, on ne fait que porter une parole qui nous a été léguée. À travers cette parole léguée par ma mère, par mes 7 tantes, tout cet univers a son sens ici parce que ceux qui ont légué cet univers viennent ici. Alors dans cette famille, même si on habite très loin, quand on meurt, on doit venir à Istanbul.
Tambulio mzoazevan, vushukua tudavan, vuka ma Indonésie.
Et pour elle, c'est garder le lien avec cet ancêtre qui est venu, avec les autres aussi qui sont enterrés ici.
Mawana madiwo, na mawana swalihi, na mawana kombo, basi.
Elle a cité la généalogie des rois de ce compte, du côté maternel. C'est sa mère, elle est descendante de ces rois de Zhaoudzi, les derniers en fait, qui ont voilà. Et donc c'est à elle qu'on a légué un peu la généalogie. Hein. Peut-être c'est parce que c'est la dernière, mais après les autres sœurs ont d'autres savoirs. Il y en a qui étaient des maîtresses carrément, qui avaient des écoles, il y en avait des guérisseuses. Il y en avait une, c'était la meilleure des conteuses que j'ai jamais connue, Shamsia. Elle était d'une beauté, quand elle comptait. Et je pense que Shamsia m'a transmis quelque part aussi la poésie. Sa façon de raconter, on ne la retrouve plus. Elles m'ont donné cette envie de poursuivre. Je me dis, mais si je pouvais écrire tout ce que j'ai entendu, ce serait formidable, mais je ne peux pas parce que j'ai été noyé quasiment dans la parole. Parfois même, je me rappelle que ma mère avait un petit transistor qui pouvait enregistrer. Quand elle venait sans moi, elle enregistrait la cassette, elle nous amenait et j'entendais ma tante dire « Ce conte, c'est pour Kamal ». Quand elle revenait, au lieu de m'amener des oranges, elle m'amenait des contes. Alors...
Dans les familles, c'est souvent les femmes et les enfants, avec le voisinage, qui est souvent les sœurs ou les cousines de la mère d'ailleurs. Je m'appelle Sophie Blanchy, je suis ethnologue au CNRS. Autrefois, on était sous le ciel étoilé, et là, on raconte, et surtout, les enfants aussi s'exercent, dès qu'ils ont acquis quelques contes, à les raconter. C'est vraiment une activité auquel les femmes s'adonnaient beaucoup autrefois, et certaines d'entre elles détiennent un répertoire absolument merveilleux, les hommes aussi. L'éducation à cette mémoire orale, elle passe par le conte. Certainement, c'est un de ces canaux les plus agréables pour les enfants, donc certainement les plus efficaces. Tous les contes disent comment il faut se comporter et comment il ne faut pas se comporter. Alors bien sûr, c'est crypté sous forme d'aventure que je crois les jeunes comprenaient assez bien, d'autant plus qu'il peut y avoir aussi au sein des familles des commentaires, des demandes d'explications sur les contes. On discute autour des contes également.
Il y a un conte qui était magnifique, alors je vous poserai la question, quelle est l'eau qui coule sans venir du ciel et de la terre ?
Dans le corps.
Voilà. C'était un conte qui nouait le savoir. Et le savoir, on ne peut pas l'avoir ailleurs qu'entre la parole et l'éducation de la mère.
Alors pour vous, ça a toujours été important de transmettre à Alain Kamal, au petit dernier, toute votre culture, de lui raconter des histoires, et encore jusqu'à aujourd'hui.
Les contes, les histoires, la nécessité première de transmettre, c'est d'éduquer un enfant pour qu'il vive bien dans le respect des gens. Et donc elle a voulu élever ses enfants comme ça. Sans cette part de l'oralité, en réalité, il n'y aurait pas d'école. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'enfant arrive à l'école avec tout un bagage déjà préscolaire. Et c'est ça qu'elle nous a apporté, nous. Voilà, de l'oralité, voilà. Tout ceci n'est écrit nulle part. Cette part, justement, de cette culture dense énorme dans l'oralité qu'on ne peut jamais écrire. Enfin, il faudrait peut-être, disons, un pays qui soit une bibliothèque. L'idée, justement, de cette tradition orale, c'est que rien ne se perd en réalité. On a conscience éveillée d'une histoire qu'on raconte, mais parfois on dort, l'histoire te revient. Combien de fois j'entends ma tante chanter dans mon sommeil? Elle nous habite, cette parole, elle est essentielle même dans la vie de l'être. Elle permet à l'homme d'être en société, en adéquation avec sa communauté. Elle apporte aussi cette autre parole qui est la bénédiction. Parce que la bouche d'une mère protège aussi. C'est comme un talisman. En réalité, Je ne suis jamais loin de ma mère et de toutes les mères quelque part. J'étais là avec cette vieille. Cette femme avait chanté en 1982 Mbiwi. C'est un poème de 64 vers. Ce poème rime d'une beauté magnifique. Un long poème chanté dans le Mbiwi par les femmes de Bandélé et de Mzoisia. Et ce poème chante la grâce de la mariée et est en train de dire quelque part c'est quoi une bonne épouse. Et à un moment donné, puisqu'avant il y avait la polygamie, un peu maintenant aussi, la femme va railler la co-épouse. Elle va faire une parodie de la mauvaise femme. Alors je me demande mais comment elle faisait, puisqu'elle ne l'écrivait pas comment. Alors c'était une composition collective entre les femmes, mais ça doit rimer. La tradition des rimes, elle l'acquiert de poèmes arabes.
Tous ces genres oraux permettent en fait de dire ce qu'on a à dire. Et il y a beaucoup de situations où on se permet de critiquer les unes ou les autres de manière tout à fait indirecte et donc acceptable. Et donc, bien sûr que les chants de Mbiwi peuvent être une bonne occasion de mettre les pendules à l'heure, si on peut dire, à propos d'un conflit ou à propos d'une situation ou de compétition. Oui. Le monde féminin est un monde à la fois de grande solidarité et de très grande compétition. C'est souvent la fonction de message indirect de la parole. C'est pas forcément le contenu de ce qui est dit qui est important, c'est le fait qu'à un moment, effectivement, quelqu'un prend la parole pour chanter, ce qui signifie indirectement « nous sommes un ». Être un, être uni, avoir la même intention, c'est très important à Mayotte. Et c'est vrai que ces modes de parole, de prise de parole, à travers l'entonnement de ces chants, par exemple, dans les travaux en commun ou dans les grands rassemblements festifs, eh bien, beaucoup de choses sont très clairement dites à cette occasion.
C'est aussi quelque part rendre hommage à ces femmes-là. Parce qu'elles, justement, elles parlent à tous ces enfants qu'on vend dans la rue. Elles leur parlent d'une seule chose, votre âme. La parole des anciens qui n'est pas arrêtée et qu'il faut à chaque fois actualiser selon un art, l'art que nous portons, l'art de la parole.
Voyage en terre d'outre-mer, sur France Inter. L'art de la parole, chez les Maoris, de Mayotte.
Merci à mes anciens du fait de l'apport spirituel qu'ils m'ont transmis. C'est très important pour moi, les valeurs qu'ils nous ont données. C'est ce qui fait que j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui.
Elad Slameur.
Avant d'être français, je suis maoré. Et donc ma culture mahoraise, si je l'efface, je ne serai pas moi-même, puis je serai complètement perdu, je serai fou dans la rue, moi, en train de crier je ne sais quoi. Donc c'est important ma culture, et je la garde ma culture, parce qu'elle est belle et je l'aime ma culture. C'est ma personne. Le Outendé, comme je l'ai vécu moi quand j'étais petit, c'est un art oratoire qui se pratiquait dans les villages, dans les quartiers, pour annoncer des choses de la vie de tous les jours, des choses qui n'allaient pas. C'était, donc pour moi, c'est une continuité. Et la façon dont ça se pratiquait, il y a une scène qui m'est restée en tête. Dans un quartier, on était tous assis quelque part en train de discuter, un monsieur qui pratiquait le Outendé, mais il était derrière le public, c'était comme un son de fond. On discutait de tout et de rien, mais on parlait fort. Mais lui, comme par moments, il chantonnait ses textes. C'était vraiment quelque chose, une scène formidable. On était tous occupés, mais les oreilles écoutaient bien ce qu'il faisait et ce qu'il nous disait. Et moi, j'ai gardé ces scènes-là. C'était des scènes magnifiques. Pour moi, c'est une continuité. Donc, je peux effectivement rappeler des choses qui ne vont pas, les revendiquer et donc passer le message au public maoré. Donc, ça, c'est très important.
On ne dira pas qu'on a manqué d'essai. Une collection de régimes, une collection de réformes, de Lucie à homme digital moderne, choisi par le peuple ou imposé par une communauté, par la force ou par les armes, une sélection de styles, des cultures séparatistes, d'un seul genre humain.
beaucoup de jeunes générations aujourd'hui qui échangent avec leurs enfants en utilisant le français et qu'on met complètement de côté le Chimaoré où on ne le parle même pas. Ce qui est dommage parce qu'à un moment donné, cet enfant-là, il voudra avoir une part de sa culture et il voudra communiquer avec ses grands-mères ou avec des gens, des adultes. Mais comment il va échanger?
Ah oui, la langue, c'est la base.
C'est la base, c'est une porte. C'est une porte d'entrée. Il y a beaucoup de choses qu'on a perdues. On le voit, on le vit. Moi, quand j'étais jeune, on vivait en groupe. Quand il y avait des choses à faire, par exemple, de faire le toit d'une maison, d'une famille, c'était tout le village qui était là. L'autre n'existait pas. Je voyais des fois, quand on essayait de s'isoler, il y avait toujours un adulte qui passait par là pour ramener l'enfant dans le groupe. Parce qu'on fait partie d'un groupe, et puis on avance dans le groupe. C'est la base même de cette société-là. Et puis, il y a eu un temps, un autre temps, un contre-temps, où les mêmes personnes qui se tenaient la main pour traverser famine laissent leurs propres enfants jouer devant la gueule du loup. Donc c'est le changement.
Il y a quand même une sorte de grand fossé, en fait, qui a coupé la transmission à Mayotte. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un progrès énorme de la scolarisation. Donc, avec des parents qui, à un moment, étaient démunis parce que ce qu'ils avaient à transmettre n'avait rien à voir avec ce que les parents recevaient à l'école. Ils recevaient des choses à l'école des métropolitains, les Wazungu, c'est-à-dire ces Blancs qui vivent différemment, qui ont des valeurs différentes. Et quand on discute beaucoup à Mayotte sur les valeurs de la République, certes, elles sont tout à fait respectables, mais nos valeurs de la République, c'est aussi des valeurs d'individualisme, de réussite personnelle, qui sont un peu à l'antinomie des valeurs de solidarité, des valeurs de réciprocité que Mayotte tient absolument à protéger et qui sont difficiles parfois à mettre en œuvre dans la vie moderne.
C'est logique que la jeunesse mahoraise se perd. Il n'y a pas eu ce travail de communication entre les adultes et la jeune génération. Oublier sa culture, c'est oublier sa personne, c'est se laisser mourir, tout simplement.
Cet après-midi, dans la chaleur moite de ce dimanche, une centaine de jeunes, de 16 à 25 ans, se retrouvent au lycée de Chikoni, dans le centre de l'île. Des Comoriens, des Mahorais, des Anjouanais, ils représentent cette jeunesse de Mayotte. 50% de la population a moins de 18 ans et quelques milliers d'entre eux sont des mineurs isolés, laissés à Mayotte par des mères expulsées, souvent vers les Comores. Une génération déracinée et stigmatisée par les adultes. Le CMEA est une association d'éducation populaire. Il joue un rôle de passeur d'identité et accompagne ces jeunes entre deux mondes dans une société encore très marquée par la tradition. Sa pédagogie passe par l'oralité.
Allô, allô, les Bafas 3, s'il vous plaît.
Voyage en terre d'outre-mer.
On va se réunir sur la natte. On va vivre un temps de conte, s'il vous plaît.
Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Nous allons vivre un conte parce que ça permet de réfléchir, ça permet de voyager et ça aide les jeunes à s'interroger eux-mêmes et se dire, eh ben, ce personnage-là, ça ressemble à moi. Archimède, professeur des écoles, j'utilise beaucoup le conte et ça permet de lever certaines choses, parler de la sexualité ou parler de bonne conduite, de donner un coup de pied dans une institution ou même la religion, ou c'est à travers le conte.
Et l'idée, finalement, c'est de permettre à ces adolescents de retrouver quelque part leur identité ou de se créer une nouvelle identité mahoraise en 2017.
C'est déjà se reconstruire pour certains. Et aussi, c'est retrouver des repères par rapport à plein de choses. Certains comprennent mal le sens de riche, par exemple, ou j'ai pas les moyens, ou pourquoi je suis comme ça. Mais on va voir comment ils réagissent, vous allez voir. Allez, allez, allez. Il y avait une fois, dans une grande ville, tous les habitants étaient des riches. Ils avaient tout. La télé, l'antenne, le parabole. Et un jour, un père d'une famille riche, le père disait à son fils, « Mon fils, je vais t'amener un jour voir comment vivent les pauvres chez eux là-bas. » Et à l'entrée du village, le jeune garçon voyait plein de jeunes qui se mettaient debout. Il voyait des maisons avec des toits, feuilles de cocotier, en chaume et tout. « Mais papa, c'est joli ici. Hey, mon fils, tu vas voir comment vivent les pauvres ici. » Ils sont rentrés dans une famille qui les accueillait, qui les attendait.
Nam Karibou, Karibou, bienvenue, venez, rentrez. Ils sont rentrés et la maman a pris de l'eau et les servait. Mais papa, ici, c'est joli chez les pauvres, c'est magnifique. Chez nous, c'est notre domestique qui nous sert à manger. Regarde, ici, c'est la maman qui sert. Ah bon, chut, mon fils, tu vas voir comment vivent les pauvres ici. En tout cas, papa, je te remercie. Je ferai tout pour être pauvre. Tu vas voir, papa. Je vais tout faire pour être pauvre. Camon avoue la parole. Pourquoi il avait envie d'être pauvre, cet enfant?
Peut-être pour moi, je pense que chez lui, il se sentait comme s'il est en prison. L'enfant, vu que c'est la première fois, il a préféré d'être pauvre pour pouvoir être libre. La liberté est plus importante qu'être riche et enfermé. Pour l'enfant, c'était l'inverse, en fait.
Ah, c'est-à-dire, alors?
Vu que l'enfant, il ne connaissait pas chez les pauvres, quand l'enfant, il est allé découvrir le village des pauvres, après, lui, il s'est dit que c'est eux, les pauvres, en fait. Pour l'enfant, c'est les pauvres qui étaient riches. Du coup, c'était un inversement de rôle. On peut se mettre à sa place.
Ah, vous vous mettez à la place de ce jeune-là?
Oui.
L'enfant, il ne savait pas c'est quoi la différence, en fait. Et là-bas, c'est les gens qui se salissent, quoi, pour subvenir à leurs besoins, or que chez eux, ils ont tout.
Alors, je ne sais pas, mais c'est magique, ça. Est-ce que vous avez envie d'être pauvre?
Non.
Non? Vers le soir, la maman a appelé les enfants. Hé, hey, Abou Doumadi, venez. Vous allez attraper un coq là-bas. On va faire à manger pour nos invités. Ils ont appelé l'enfant. Viens, 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 on va courir, on va attraper le coq. Le coq s'envolait, passait sous le grenier, il roulait, il s'écorchait partout. Il était content souvent, le coq. Coq, 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 coq. Ils l'ont attrapé et ils ont demandé au père d'égorger le coq. Et la maman commence à le déplumer et la maman appelle son mari. Bamadi, Baboudou, viens. Je pense qu'on n'aura pas assez de poulet là avec nos invités. Demande aux enfants d'aller en attraper d'autres, le plus gros. L'enfant, on l'a appelé. Viens, 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 on va attraper un coq. Le coq s'envolait, l'enfant, il m'a donné sauter, il rigolait, il était content comme tout.
Pour lui, c'était waouh là. Les parents qui sont là-bas, les pauvres, eux, ils servent les invités. Par contre, chez eux, ils ne servent pas des invités. Donc, pour lui, c'était quelque chose de fort.
Moi, si j'étais moi, j'allais chez les riches.
Mais alors, par rapport à ce que tu dis maintenant, est-ce que nous, il n'y a pas des situations comme ça qu'on cherche, vous voyez, à se morfondre dans des choses qu'on n'a pas?
L'être humain de nature, il a toujours envie de ce qu'il n'a pas. Imaginons le pauvre. Comme nous aussi, la plupart de nous, on est pauvres. Nous, on a envie aussi d'être riches. Et l'enfant, lui, il a découvert un autre monde. Du coup, pour lui, c'est une richesse.
Alors, le jeune, vous avez vu là dans le conte, la maison en dur, ils ont une piscine à la maison, un salon, télé, tout ça. Arrivé chez les pauvres, il a trouvé un autre sens dans sa vie ou dans ce qu'il peut faire. Est-ce que c'est ce que vous ressentez ou encore c'est vous qui ne jouez pas votre rôle pour que ça ait du sens?
J'ai l'impression qu'on ne nous considère pas. Avec toute cette population jeune qu'on a à Mayotte, comment on peut ne pas proposer des choses?
62% hein,
oui,
de la
plus
population.
De 62%. Et ici, on a l'impression que rien n'est fait pour les jeunes. On se pose la question, est-ce que pour nos responsables, nous sommes leur première priorité? Il faut que nous, jeunes, nous arrivons à chercher cette place et à trouver cette place.
C'est ça.
Que sans les jeunes, la société n'avancera pas.
Dans ce genre de situation, il a réussi à recréer peut-être l'ambiance qu'il y avait sur la natte étalée dans la cour lors des soirées de contes d'autrefois. Et je pense que ces contes sont faits pour évoluer. Donc il s'agit toujours de faire passer un message d'éducation, en fait. Et il faut surtout que ça engage le dialogue, que les jeunes, ça leur donne envie de poser des questions sur leur avenir, en fait, sur comment ils peuvent se conduire et qu'est-ce qu'ils peuvent faire et avec qui.
Et le soir, quand il mangeait, il regardait son père. « Papa, Baba, tu sais que... c'est bien chez les pauvres ici. Mais, chut, si papa, je vais te parler, je vais te dire. »
À Mayotte, nous avons l'habitude, en tout cas on nous a éduqués comme ça, que c'est toujours les grandes personnes qui savent. En fait, c'est compliqué, la transition entre la société traditionnelle et la société moderne.
On nous a élevés comme ça, on ne donne jamais notre avis, c'est toujours les parents qui savent. Et c'est cette culture de discussion qu'il faut chercher à développer, vous voyez ce que je veux dire?
Et aujourd'hui, vous avez entendu ces expressions, ces jeunes d'aujourd'hui ne savent rien faire. Leur demander faire la cuisine, elles ne savent pas. Ils savent qu'utiliser le couteau pour poignarder l'autre, racketter les jeunes les plus petits ou les grand-mères, les vieilles personnes. C'est des violences, c'est des voleurs. Est-ce que vous vous retrouvez dans ça ou qu'est-ce que vous comptez faire? Comment vous allez faire votre place, vous?
Les parents d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à transmettre, à inculquer les valeurs qu'on a reçues des arrière-grands-parents ou de nos grands-parents. Il y a eu certaines cassures entre les parents et les enfants. En fait, les enfants un peu sont livrés à eux-mêmes. Du coup, ça s'engendre la délinquance et tout ce qui suit derrière.
Est-ce qu'un enfant né violent, né incivilisé... Non, il le devient.
Moi, mon avis, c'est que maintenant, les rapports entre parents et enfants, s'il y en a, c'est pas beaucoup. Parce que maintenant, les enfants sont éduqués par Internet, la télé, ou ils sont dehors. Ils ne sont pas encadrés directement par les parents.
Et on a avancé. Papa, tu oublies que là-bas, dans leur maison, il n'y a pas de clôture avec des fils barbelés. Et arriver devant leur portail... Au moment où le père a sorti la clé dans le cadenas d'une grosseur d'une valise pour leur sécurité, il a ouvert ça et ça a claqué. Et j'ai eu très peur. J'ai dit, je ne rentre pas dans votre maison. Je vais faire un tour à Kokoni. Je vous en remercie. Merci. Moi, il s'agit vraiment d'apporter des outils à cette jeunesse pour qu'ils puissent eux faire la synthèse eux-mêmes, questionner, à être plus critiques par rapport à leur avenir. Et moi, je ne suis que agitateur, passeur de pont, passeur de génération en génération. C'est ce que je joue aussi.
À 15 000 km de là, la Nouvelle-Calédonie. Depuis 2010, sa devise est « terre de parole ». Terre de partage, une parole héritée des anciens et un partage de cet art de l'oralité kanak.
La parole l'associe de merveilleux, c'est qu'elle est en même temps un souffle très singulier de l'instant, et c'est en même temps un souffle qui est audible par un monde et qui n'est pas visible par nous. Il y a une médiation possible entre vivant et existence dans une autre dimension, qui est un peu la dimension des ancêtres. Ou l'art de la parole, c'est l'art de l'écoute aussi. C'est ça qui est intéressant au pays Kanak, c'est que ça permet de dire beaucoup de choses et d'être obligé d'écouter.
Et c'est dans la case que s'élabore cette parole Kanak. Elle tisse les liens, dit le monde et lui donne un sens. Elle peut être douce, légère, joyeuse, profonde, violente. Elle peut tuer comme créer ou unir. Elle est. Et le maître de la parole est son serviteur. Orateur d'une coutume, de salutations rituelles, il peut jouer tous les rôles, tous les protagonistes à la fois. Il est le messager de la parole.
Je m'appelle Paul Wamo Tan, je viens de l'île de Lifou en Nouvelle-Calédonie, un petit caillou séché par le soleil dans mes bagages des mots. Parce que là d'où je viens, c'est tout petit, sur les cartes on ne nous voit pas. Donc depuis que Jean-Marie Tjibaou a lancé l'appel dans les années 80, son mot d'ordre était à l'époque relever la tête, être fier de qui on est et de dire qu'on existe. Sol, sol, sale, sali, sol, soleil, sol, sonné, sol, stone, sol, sort, sort, peur, sort, peuple, sort, soleil, sort. Sol, c'est un manifeste, on va dire, contre l'oubli. Ça parle de révolte, ça parle de réveil, ça parle de la terre, ça parle de nous. D'essayer de tendre vers l'être ensemble, quoi. La parole dans la culture kanak est très présente. En Nouvelle-Calédonie, on a plusieurs pays. Et dans chaque pays kanak, le nord, dans les îles, dans le sud, à l'est, à l'ouest, il y a plusieurs types de discours. Par exemple, dans les rituels de deuil, ou dans les rituels de naissance, dans tous ces rituels-là, la parole a une place sacrée. Elle est présente, c'est celle qui fait le lien. J'ai pas trouvé dans d'autres cultures cette place de la parole. Cette parole-là, elle va dire qu'elle m'habite aussi parce qu'elle fait partie de, ma culture. C'est ce qui fait, c'est qui dit d'où l'on vient, quoi. Quand j'allais sur Lifou, les gens de Lifou me disaient, mais toi, t'es pas un garçon de Lifou, toi, t'es un garçon de la ville, toi, t'es un garçon de Nouméa. Tu parles en français, et du coup, quand j'allais sur Nouméa, les gens de Nouméa, par contre, ils me disaient, mais t'es pas un garçon de Nouméa, toi, t'es un garçon de Lifou, ça a commencé à pousser ça dans ma tête et dans mon ventre, ce rapport à l'identité. J'ai commencé par écrire avant de parler. Ça m'a sauvé parce que j'avais des choses que j'avais envie d'exprimer mais que je n'arrivais pas à faire sortir de mon crâne. Et la première fois que j'ai dit un texte, je l'ai dit avec toutes mes tripes. Mon premier texte s'intitule « Amnésie traditionnelle ». C'est un cri de rage qui ronge mes racines. Rempli de vide, tel un vase qui sonne creux, mon esprit s'égare dans les abysses de l'histoire. Exclu d'une société dite traditionnelle, je m'inclus dans un secteur dit à problème. Des racines et de la terre, je trouve mes véritables racines dans le ventre de ma mère. Il y a différentes formes de discours. Dans le Nord, il y a un discours généalogique. Je me suis inspiré du discours généalogique pour écrire un texte sur l'identité. Dans le rythme, ça fait « Je viens de là et de là, je suis arrivé jusqu'ici, je viens d'hier et d'hier, je suis là maintenant, bien avant moi-même. » À l'IFO, on n'a pas ce type de discours-là. On a les Shainer, on a les Ihouder, on a des discours pour punir. Et à chaque fois, pareil, là, il y a un débit. Comme par exemple... Un discoureur qui est là et qui, dans un deuil, quand les familles se rencontrent, il retrace la généalogie du clan ou la généalogie du défunt sur ce tempo, quoi. Sur une série de souffles. Donc, du coup, moi, dans mon travail de création, c'est de faire sonner la langue française, mais dans le rythme de chez nous, quoi.
Comme il n'y avait pas véritablement de pouvoir centralisé, que les chefferies étaient relativement autonomes, la nécessité, c'était de formaliser le contrat social, de le reformuler en permanence par des paroles, voire des bonnes paroles. On vous reconnaît, vous êtes des gens très importants. C'est ça, les discours, même s'ils ont une forme très travaillée, avec beaucoup de mémoires sur l'histoire des relations passées entre les clans. Mais enfin, si la parole a été mise ainsi en avant, c'est parce que vous avez des petits groupes qui sont sans arrêt en train de négocier leur présence, leur position. Je suis Alban Bensa, je suis anthropologue à l'EHESS. Je travaille depuis les années 70 cette archéologie d'une histoire de la pensée kanak en acte. Voilà. Mais c'est un art de la parole pour faire consensus. C'est un discours pour se protéger de l'autre. C'est faire en sorte qu'on soit accueilli, que l'autre dit bah, « je vous ai accueilli », mais quelquefois ça arrive, hein, la coutume est refusée, et les gens ils repartent fâchés, hein, ça arrive. Hein. Un autre groupe est toujours potentiellement un danger, hein, et on se méfie quand même. Donc les gens passent beaucoup de temps à régler leurs relations sociales pour que ça ne dérape pas. En Nouvelle-Calédonie, la violence est toujours sous-jacente à cette parole. C'est pour ça qu'elle est risquée, que les gens... souvent, ils disent, bah non, toi, tu parles, parce que il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, évidemment, il y a un art de la parole, parce qu'il y a des gens qui sont plus habiles, on peut même leur demander de parler pour nous. Il y a un art, une expression, une façon, que plus le personnage est important, plus la cérémonie est importante, plus on va chercher des orateurs de grande qualité. Alors, depuis 40 ans que j'y vais, les gens disent, oui, il n'y a plus personne pour prendre la parole. Enfin, pour l'instant, j'en ai toujours vu.
Et ça fait, et si nous traitions nos mondes pour un même territoire, et si nous lions nos voix pour un même polyphone. Quand on fait ce discours-là, rituel, souvent ça se fait, ben, c'est des familles qui se rencontrent, une qui prend la parole pour dire qu'elle marque son respect, son humilité quand elle arrive chez l'autre famille. Et souvent en face, dans le Nord, ils ont des réponses. Quand celui qui prend la parole dit une phrase, en face on a une réponse. Tombe la nuit et les ténèbres. Et en face ils font mm-hmm. Les villages sont tous désertés. Mm-hmm. Ils éparpillent ceux de café. Mm-hmm. Et ça, vous imaginez avec un groupe en face qui répond. C'est fort, quoi. Ces discours-là sont faits pour attacher. Le Shineuth, par exemple, à Lifou. Shineuth, ça veut dire attacher le pays.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, derrière cet art de la parole, il y a avant tout l'art d'être ensemble.
Et c'est l'essence de cette parole-là sacrée. Quand on prend cette parole-là, le temps s'arrête. La parole prend le dessus et fait oublier tout ce qu'il y a autour et il n'y a plus que toi et moi. Il faut garder la mémoire. À travers les ténons, on appelle des récits oraux qui se transmettaient à l'oral. Quand tu fais un mariage, ou quand il y a un deuil, ou quand il y a des événements, on a un compositeur de ténons. C'est comme des poèmes. Hein. On témoigne contre l'oubli à travers la poésie. Chant des anciens combattants de la guerre 1914-1918. Ténon. Vous connaissiez notre bonne volonté, vous nous avez contraints et poussés à partir, jetés à la mer, nous avons dérivé à l'aveuglette.
Voyage en terre d'outre-mer. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Quand l'armée est venue, voyez la petite colline qui est là. Et c'est de là qu'ils ont tiré sur les gens ici. Mon grand-oncle, c'est lui qui, en 1917, s'est révolté avec Ed Noël de Tiamou. Après, l'armée est descendue, il a brûlé toutes les maisons, les cases. Là, on est dans un lieu symbolique. Là. Moi, je suis le descendant de Pointe d'Abengou. Et maintenant, je suis le petit chef de la tribu.
Alors, quand vous nous racontez ce récit, on a l'impression que c'était hier.
Bah, c'est 100 ans. C'est pas vieux, 100 ans. Nos vieux, ils nous racontaient l'histoire de 1907, mais c'est oral. Donc, eux, ils nous racontaient un peu des petits morceaux. Parce qu'avant, c'était tabou. s'était défendu de raconter l'histoire de 1917. Nous, on nous apprenait toujours l'histoire de France. Mais notre histoire à nous, on n'a jamais su.
Le sujet peut sembler dérisoire, la rébellion des Kanaks de 1917, alors que l'administration française recrutait de nouvelles troupes à envoyer au front. Une guérilla qui a fait 300 morts, un épisode passé sous silence. Mais 1917 fut en réalité d'une rare violence et marqua un tournant dans l'histoire coloniale et dans l'émancipation du peuple kanak. Un tournant si majeur que de longues poésies chantées, les Ténons, ont transmis oralement cet épisode, de clan en clan, de génération en génération. Alban Bensa est anthropologue. Il a collecté ses Ténons auprès des anciens. Son livre, « Les sanglots de l'aigle pêcheur », est une histoire kanak de la colonisation. Aujourd'hui, à Koné, en province nord, les langues se délient, les descendants parlent au grand jour.
Chez les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, l'art de la parole.
Stèle en mémoire des événements qui ont bouleversé la région en 1917. Ici, Boy Noël Néa, Poitiba et son frère Wanyi, Michael, ont défié la colonisation inaugurée le 24 septembre 2009 en présence des autorités coutumières des districts de Bako et la mairie de Koné. Kachoué Yvan Goromwedo, je suis originaire de la tribu de Tiaoué.
Quand vous avez lu ce texte sur la stèle, en mémoire des événements qui ont bouleversé la région de 1917, on vous sentait plein d'émotions.
Oui, oui, parce que Noël et son frère Wanyi font partie de mon clan. Oui, ils se sont révoltés parce que leurs terres ont été prises et ils ne voulaient pas envoyer des gars à la guerre 14-18. Ici, je vous ai emmené, mais c'est pas tout le monde qui rentre ici. Toi, Anne, avec Alban, mais pas d'autres Kanaks. Ils ont peur de cet endroit-là. Parce qu'ils savaient que Noël, il a été décapité ici. Là. C'est un lieu tabou. Nous, qui faisons partie de son clan, on peut rentrer là. Alors, tu vas à Ndiao. Oui, va à Ndiao, 1917. Alors,
où est-ce que voilà, là, vous avez demandé l'autorisation aux voilà. ancêtres de pouvoir venir ici.
Voilà, j'ai déposé deux pièces de 100 francs chez la stèle. C'est pour nous. Il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'on vient ici, là. On va venir les bousculer à leur place. Non, non. La moindre ressource, c'est de faire un geste quand on arrive. Parce que si on ne fait pas, des fois, ça tourne mal. Hein. Enfin, surtout chez nous, quand on arrive chez des gens, on fait toujours un geste pour qu'on puisse entrer. C'est comme un passeport. T'as pas de passeport, tu prends pas l'avion.
Eh ben voilà, nous voici protégés alors. Voilà.
À cet endroit-là, le chef Noël a été décapité, le nez coupé, les oreilles. Ils mettaient dans le cas et puis ils ont incendié le cas.
On demandait même aux femmes de reconnaître la tête de leur mari. C'est dire la barbarie de ces hommes, en l'occurrence du colonisateur français.
Oui, ça fait mal quand on entend. Ça fait mal.
Et alors cette histoire, vous, Yvon, elle vous a toujours habité.
Oui.
C'est-à-dire qu'on était au courant de oui. cet épisode. Et c'était par l'oralité que cette histoire était transmise de génération en génération.
Comme beaucoup de descendants des Sérimbels, ils retranscrit cet épisode-là. Il a raconté comment ça s'est passé. Quand un vieux parle, il ne parle pas à n'importe qui. Il parle à quelqu'un du clan ou de la famille pour que les autres n'entendent pas. Alors ça reste secret entre eux.
C'est vraiment l'événement que les gens vont transmettre oralement. Et comme l'ensemble du peuple kanak était réduit à plus rien, le seul moyen de pérenniser malgré tout une identité collective singulière, ça a été d'entretenir par des discours un ensemble de mémoires l'histoire du groupe, au moins depuis la colonisation. Dans la région de Païti, qu'on est Pointigné, les récits qui sont faits, ou les poésies-récits qui sont donnés, traitent de 1917, parce que c'était les derniers grands déplacements qui ont été imposés lors de la répression. C'est quand même pas mal de gens qui sont morts, des gens qui ont été déplacés, puis surtout une scission aussi à l'intérieur du monde kanak entre ceux qui se sont engagés dans la rébellion et ceux qui, au contraire, ont préféré aller en France combattre. Des fois, c'est les mêmes, ou les frères, c'est les mêmes familles, mais ça a scindé quand même le monde kanak. C'est ça, la guerre de 17. C'est la mémoire d'une tension extrême qui va déboucher. Donc, il y aura une vingtaine d'Européens de tués, puis ensuite, une répression qui va durer 18 mois. Donc, à partir de 2005, avec Yvon Gorobrindo, là, on a commencé à essayer d'obtenir des récits en me disant, est-ce que vous pouvez nous raconter la guerre de 17 dans son ensemble? Et surtout, ils parlent toujours à partir de leur propre tribu réserve. Et l'histoire personnelle du narrateur et l'histoire de sa famille, de sa généalogie est centrale, que ce soit Ignace Péharou ou Anaïs Nanguet, la vieille dame qui raconte du point de vue des femmes, du point de vue de son père qui avait un panier magique pour protéger Noël, etc. Donc on entre après dans tout le dispositif d'organisation de la guerre, si vous voulez, ce qui est aussi une entrée intéressante dans le livre. C'est pour ça que ça a intéressé les historiens de la guerre. C'est des poésies de vers de 8 pieds, récitées à une assez grande vitesse, mais qui sont encore là dans les pilous, les fêtes, etc., qui sont encore chantées, et qui chantent toujours ces moments héroïques ou des poursuites, des rituels faits pour essayer de résister. Tout ça a été mémorisé, fixé et transmis.
Les mises en terre, l'herbe de guerre, déposer refus et colère, car sont échoués les grands radeaux, les remous se sont essoufflés, radeaux dans la crue apaisée.
C'est ici où il y a la pierre de brouillard.
Quand il y a eu cette révolte là, Noël et Wayé, ils avaient leur pouvoir pour cacher les yeux des gens. Il faut appeler la pierre, ben le brouillard arrive. Et ils pouvaient se faufiler entre les militaires. On ne rappelait personne, c'est tout blanc, tout blanc. Ils appellent ça la Areva. Le brouillard de guerre.
Et ça, c'est raconté aussi dans les ténons, dans les récits.
Oui, aussi. Aïna, aïna, béni. Aïna, ma eruba.
Certains connaissent le truc. Pour faire descendre le brouillard à ras de terre, et ils disent, ce brouillard-là est réservé pour la guerre. Et ils se déplacent ainsi, sans être vus, vers les habitations. Une fois près d'elles, ils font en sorte de chasser le brouillard, et quand les vieux sortent au matin de la case-cuisine et descendent s'étirer sur l'allée, le brouillard s'est dissipé. Et c'est ainsi qu'on pouvait fuir les colons pendant la révolte de 1917.
Oui.
Cette pierre, elle est juste là, et vous n'osez pas trop vous approcher.
Oui. Parce que si on la touche, ça y est, c'est le brouillard qui arrive.
Pourquoi sommes-nous dans cet état? Que faut-il donc là-dedans? Où tourne-t-il de la sorte? Et que prépare-t-il pour Tiaoué en agissant avec la France?
Pourquoi sommes-nous dans cet état? Que faut-il donc là-dedans? Où tourne-t-il de la sorte? Et que prépare-t-il pour Tiaoué en agissant avec la France?
J'ai essayé de partir sur... de me rapprocher du rythme du discours originel, parce que c'est un rythme particulier. Il y a tout un flow comme ça qui est propre au ténon. Mais on a la trace des vieux, des grands-pères qui ont réussi à transmettre cette histoire, cette mémoire-là à travers ces ténons, à travers de la poésie, à travers l'art, de la parole. Et en plus, là, on n'est pas du côté des vainqueurs, mais du côté des vaincus. Ça fait une autre vision. Et c'est important, ça. Au pays, on a des trous de mémoire à travers ce travail d'album. Et ça, c'est de penser un peu des trous de mémoire par rapport à l'histoire du pays, de se réapproprier nos repères, et aussi de montrer qu'à travers l'art, la poésie, on peut graver des choses. Le passé, on le voit, Le futur, on ne le voit pas. Le futur, il est derrière nous, on ne le voit pas. Le passé, on le voit parce que le passé, on sait ce qui s'est passé devant. On témoigne contre l'oubli à travers la poésie.
Quand j'arrivais à la maison, le soir, j'allais voir mon grand-père et puis on s'asseyait. Et lui me racontait des histoires.
Joanna Tienne, originaire de Conné.
Et je prenais ça sur le mode des légendes, comme c'était appelé d'ailleurs à l'époque par les premiers observateurs des contes et légendes kanak, sans voir qu'il y avait une part de vérité dans ce que me donnait mon grand-père. Parce que comme on était nommés comme des sociétés dites primitives, et normalement sans histoire, enfin c'était les théories de l'époque, j'étais déjà persuadée qu'il y avait dans l'oralité aussi notre histoire qui se véhiculait. Mais je n'avais pas de matière.
Comment est-ce que vous avez reçu ce livre, ce travail d'Alban Bensa, d'Yvon ici?
Ça nous aide à nous affirmer comme une civilisation. Enfin, c'est comme si un peuple sans histoire n'a pas de... C'est comme si qu'on est volatile. Ça aide à comprendre cette revendication politique. Voilà, c'était tout cela qui a refait surface. Et nous, on a un travail de valorisation de notre histoire à côté des autres aussi.
La conservation de cette mémoire a servi d'appui ensuite à la réflexion nationaliste kanak dans les années 70. Certains jeunes ne connaissaient pas cette histoire, ou du moins elle était fragmentée, si vous voulez. Le mérite d'un livre, c'est qu'on peut construire un récit qui n'était pas encore vraiment connu. Là, 17, on avait cette, on a, disons, un corpus de tradition orale, et là, ce que nous, on a souhaité, c'est que cette histoire elle soit racontée par les acteurs et leurs descendants, dans une sorte d'ethnologie dialogique ou qui donne la parole aux gens plutôt que de toujours parler à leur place. Par une littérature orale, si vous voulez, mais qui n'est pas simplement le souvenir brut qui est transmis, c'est retravaillé dans une forme. Et donc, de ce point de vue-là, les Kanaks, là, ils entrent de plein pied dans l'histoire de la littérature orale et finalement aussi écrite mondiale.
Nanagou, Yaere, Naïna, Aere Ben.
C'est l'art poétique, un art oratoire qu'on ne soupçonnait pas au travers des ténors. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne s'est jamais rendu compte de ce dont ils nous parlaient. On n'a jamais valorisé. Et c'est vrai que le fait de pouvoir en parler aujourd'hui va peut-être aussi aider d'autres personne détenteur de leur histoire clanique qui pourra contribuer à notre histoire générale du pays. C'est une histoire avec un grand H.
On les a pas trop dérangés, tous ceux qui sont là?
Non, pas du tout. Au contraire, ils sont contents.
C'est vrai?
Oui. Parce que nous sommes venus là rendre visite. Mm-hmm. Et voilà, ça s'est bien passé pour nous. Parce qu'ils nous regardent, ils nous écoutent, ils entendent ce que l'on dit aujourd'hui, et ils sont très contents.
Cette parole est toujours au cœur de la société kanak. C'est elle aussi qui règle les litiges entre les familles devant les anciens ou devant les tribunaux de la justice coutumière. C'est ce que nous découvrirons la semaine prochaine dans Voyage en terre d'outre-mer. C'était un documentaire d'Anne Pastor, réalisé par Clément Baudet. Au montage, Édouard de Penoat, assisté de Maréva Jacquard. Au mixage, Basile Bocquer. Et à la programmation musicale, Djoubaka.
Au nom de tous les oubliés, merci. Oleti Atakwad, Oleti, merci. On est là. On est programmé pour ne rien lâcher. C'est notre destin.
Faithless, you fall into arms without a word. And only the size of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are closed.
of these words I've tried to recite. They are close but not quite. So misunderstood.
Écoutez cette émission sur franceinter.fr. Merci à l'agence de développement de Culture Kanak, Emmanuel Djibaou, Emmanuel Casarerou et Tidiana Maron. Ce programme a reçu le soutien à Mayotte d'Air Austral, de l'Office du Tourisme et d'Evaneos. En Nouvelle-Calédonie, d'Air Calin et de l'Office du Tourisme. Le voyage continue sur France Inter.